Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, quel est l'état de nos libertés aujourd'hui en France? Est-ce que cet accroissement des libertés individuelles auquel on assiste n'est-il pas aussi, et paradoxalement, peut-être le signe d'un délitement de notre bien commun, de notre vivre ensemble? Et si la liberté se nourrissait aussi d'interdits? On en parlera avec notre invitée, la professeure de droit à Paris 1, Muriel Fabre-Magnan, qui publie aujourd'hui l'Institution de la liberté aux presses universitaires de France. Elle sera avec nous à partir de 12h55. Mais d'abord, de film en film, elle confirme sa place dans la cour des grands. Repérée avec les merveilles, grand prix du Festival de Cannes il y a 4 ans, cette cinéaste de 36 ans a fait cette année un retour remarqué en compétition avec Heureux comme Lazzaro, prix du scénario. Une fable sociale et solidaire, mystique et politique, en salle mercredi. Pour l'heure, c'est Alice Rohrwacher, notre invitée, à écouter tout de suite sur France Culture.
La grande table. Olivia Gesbert.
Si bon qu'il n'en est peut-être plus homme, toujours prêt à aider, travailler, altruiste, malmené par ses congénères, exploité, jamais il se révolte, jamais la colère, la vengeance ne semble même l'effleurer. La marquise se rend sur ses terres et cet été-là, elle emmène son fils, ce maître au vert, Tancredi, qui va se lier d'amitié avec Lazzaro, extrait de la bande-annonce du film.
Lupo non lupo, i capponi mancano.
E così anche per questo mese il debito aumenta.
Anche questo mese non lo avrò per niente.
Gli esseri umani sono come bestie, animali. Io sfrutto loro e loro sfruttano quel povero uomo.
Ma magari lui non sfrutta nessuno.
Questo proprio non è possibile.
Ma di tutti quelli, quali sono i tuoi genitori?
Non lo so, c'è la nonna.
E questo non è vero.
Tu hai me. Avete visto il marchesino?
No.
Io ti dono quest'arma, con cui affronteremo tutte le marchese della terra.
No, dico la scuola.
La scuola è roba per signori.
A scuola ci vanno tutti.
Avanzare! Avanzare!
Cercavo gli altri. Si sono trasferiti?
È da tanto.
Ma dove andate?
In città.
Lazzaro!
Tu vieni con noi, vero?
Certo.
Moi, je les exploite et eux, ils exploitent ce pauvre homme, Lazzaro. C'est une chaîne sans fin. Peut-être qu'il n'exploite personne, lui, demande le fils à la marquise. Ça, c'est tout bonnement impossible. Et c'est peut-être là la phrase clé de ce film. Alice Rohrwacher, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour à votre voix française, Antonella Vignoli, bonjour.
Bonjour.
Heureux comme Lazzaro, est-ce qu'il est là pour vous, Alice Rohrwacher, le secret du bonheur dans l'attention qu'on peut porter aux autres sans rien attendre en retour?
Sì, parlerò in italiano.
Credo
che per me era molto importante raccontare di uno specchio, non so come dire.
D'un
il film non racconta
miroir.
Lo sguardo di
c'est
Lazzaro sul mondo, ma racconta
le film
piuttosto
ne racconta pas le regard de Lazzaro sur le monde, mais comme les autres affrontent la bontà. Et donc, dans la première partie, la bontà est exploitée.
E finché invece non si arriva in un altro mondo in cui la bontà viene sospettata.
Tant que on n'arrive pas dans un autre monde où il y a un soupçon pour la bontà, parce que en fait, on croit que c'est impossible que la bontà existe. Comment est né le personnage de Lazzaro, Alice Rohrwacher? Est-ce qu'il est né d'une image? Est-ce qu'il est né d'un fait réel? Est-ce qu'il est né d'une fiction, d'un roman?
Sì, il personaggio di Lazzaro è un personaggio in qualche modo tipico, perché è un personaggio
un personaggio mitico, perché on le retrouve dans la littérature, dans le cinéma, dans l'histoire de l'art. Et c'est un personnage che parfois c'est l'idiot, le crétin de village, un ange. En fait, c'est lui qui, de temps en temps, dans l'histoire des hommes, apparaît.
preconcetto et, davanti a quello che accade.
E chi n'ha aucun préjugé face aux choses qui se produisent. Il regarde un peu ce qui se produit, regarde la nature, il est bon, mais cela ne veut pas dire qu'il agit bien. Sa bonté consiste dans le fait de voir toujours une possibilité chez l'autre.
Et volevo raccontare quindi la storia sì di un santo.
Je voulais donc raconter l'histoire d'un saint,
mais
un saint qui n'appartient pas à une religion, parce qu'il n'a pas de place dans une religion non plus.
La sua santità è semplicemente
sa sainteté est celle d'être tout simplement au monde et de ne pas juger ce qui s'est fait.
Vous vous inscrivez, peut-être malgré vous ou pas, vous l'évoquez dans une tradition du cinéma italien en donnant de l'importance à cette figure de l'innocent. On pourrait penser à Rossellini, mais aussi d'abord à Pasolini. La violence de la société, l'innocence, le peuple des marginaux, ça, ce sont des thèmes majeurs de son cinéma dont on vous rapproche parfois. Moi, ça m'a évoqué cette scène du film à épisode que vous avez sûrement vu, La Contestation, quand Dieu parle à Ricetto dans ce film collectif. Écoutez, extrait de cette séquence.
L'innocenza è una colpa, l'innocenza è una colpa, lo capisci? E gli innocenti saranno condannati, perché non hanno più il diritto di esserlo.
Io non posso perdonare chi passa con lo sguardo felice dell'innocente tra le ingiustizie e le guerre, tra gli errori e il sangue.
Come te ci sono milioni di innocenti in tutto il mondo che vogliono scomparire dalla storia piuttosto che perdere la loro innocenza. E io li devo far morire.
Anche se lo so che non possono far altro, io devo maledirli come il fico e
farli morire, morire, morire.
Chi?
Extrait de la séquence del fiore di carta. Aidez-moi, Antonella.
Les fleurs de papier.
Voilà. L'innocence est une faute, dit Dieu à Ricetto. Tu comprends, les innocents seront condamnés. Ils n'ont plus le droit de l'être. Je ne peux pas pardonner le regard béat de l'innocent parmi l'injustice de la guerre, les horreurs et le sang. Et d'ailleurs, Ricetto finira foudroyé. Cette séquence, vous la connaissez. Est-ce qu'il a raison, Pasolini, ici? Est-ce que l'innocence est pour vous une faute aujourd'hui? Est-ce que c'est comme ça qu'elle est perçue?
Una colpa.
L'innocenza, sì, sicuramente questa sequenza
oui,
dei film di Pasolini,
cette séquence de Pasolini, je la connais, je l'avais bien à l'esprit.
Per me era molto importante,
en fait, pour
non
moi, c'était très important de ne pas
baser
le personnage comme quelque chose d'originel, mais original, mais originaire, c'est-à-dire quelque chose qui existe, que les hommes connaissent. Et nous vivons
nuovo,
une époque où tout doit être nouveau,
la
surprenant, mais la surprise n'est pas d'être différent de quelque chose que nous connaissons déjà. La surprise est de voir que nous pouvons encore reconnaître l'innocence. Et je pense que c'est cela que je voulais comprendre. Ce n'est pas tellement du regard de l'innocence sur le monde, mais notre regard envers l'innocence. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une faute, que l'innocence soit une faute, mais je sais qu'elle peut produire un sens de culpabilité dans celui qui la voit.
La reconnaître et être touchée par elle, hein, par cette innocence. Votre film, Alice Rohrwacher, a été pensé comme un diptyque, une partie dans une Italie intemporelle et rurale et une autre partie dans une Italie contemporaine et urbaine. Dans la première partie du film, vous montrez le quotidien d'une petite société paysanne, une vie de labeur, une vie de peu. Le domaine s'appelle d'ailleurs l'Inviolata. Est-ce qu'il reste encore pour vous aujourd'hui un coin de terre comme celui-ci, inviolé, vierge, presque intacte, authentique?
Nel film l'inviolata non è un
dans
luogo
le film
vierge,
l'inviolata n'est pas un lieu vierge positif, au contraire c'est un lieu d'abus, d'esploitation, c'est un lieu où la marquise Alfonsina de Luna veut cristalliser le passé pour faire en sorte que les paysans ne connaissent pas un ailleurs, un endroit ailleurs. Donc il n'y a pas une sorte de nostalgie par rapport à ce lieu. Lorsque j'écris, je parle de ce que je vois autour de moi. Et donc, moi, je parle de l'héritage de cette histoire, de cette fuite des paysans de la campagne. Et souvent, la faute de cette fuite incombe, la responsabilité incombe aux paysans. On dit que les paysans sont partis parce qu'en fait, ils cherchaient une vie plus confortable, une belle vie. Alors que pour moi, c'est important de dire que ce n'est pas ça la raison. Il y a des responsables, car ces paysans ont été exploités pendant des années, des centaines d'années, et donc l'image de leur terre est associée à l'horreur pour les paysans.
Et les herbes commestibles,
en fait, lorsqu'ils vont dans la ville, pour ne pas récolter les herbes qu'ils peuvent manger, en fait, ils sont prêts à tout.
Donc,
ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas un lieu intact et vierge, mais je vois un lieu qui a été abandonné et qui a été reconquis. Qui aujourd'hui par des grandes multinationales, mais qui n'ont aucune relation avec ce lieu. Ils pensent uniquement à l'exploiter, ce lieu. Et donc, ces multinationales exploitent cette terre. Et encore une fois, le gain reste dans les mains de peu, mais les conséquences de cela retombe sulla santé de beaucoup.
Il film, ho cercato di raccontare questo passaggio,
j'ai
perciò
dall'abbandono della terra, de raconter ce passage de l'abandon de la terre, ce qui s'est produit en Italie dans les dernières 50 ans. Et je pense que cela est important par rapport au présent. Il est important de comprendre ce passage et de comprendre qu'il y a des responsabilités. Qu'il y ait des responsabilités, mais si je dis comme se parle comme ça, on peut penser à quelque chose de très sérieux, alors que le film est un jouet un peu comme Lazzaro.
Alors les paysans du domaine sont effectivement au début la propriété de la marquise, le régisseur les surveille et leur rappelle qu'ils sont endettés à vie, jamais ils n'arrivent à se débarrasser de cette dette, ils vivent à l'abri du monde, ne savent pas que les lois ont évolué, à l'arrivée des carabinieri, des gendarmes, de la police, on les entend dire mais on est les serfs de madame, on appartient à la marquise de Luna, il y a une incompréhension totale d'ailleurs du gendarme qui est abasourdi quand il découvre cette situation aujourd'hui en Italie et qui explique à ces hommes que le servage s'est fini depuis longtemps, qu'aujourd'hui il y a des règles, il y a des contrats, il y a des salaires et qu'on devrait les payer. Extrait de Lazzaro, heureux comme Lazzaro.
Hey Lazzaro, buonanotte.
Lazzaro, caricala tu.
Tu non hai paura?
E di cosa?
E che si accorgano dell'inganno.
Gli esseri umani sono come bestie, animali. Liberarli vuol dire renderli consci della propria condizione di schiavitù e quindi destinarli alla sofferenza. Per adesso patiscono, ma non lo sanno.
Che belle parole.
Guarda, lo vedi? Io sfrutto loro e loro sfruttano quel pover'uomo. È una catena e non si può fermare.
Ma magari lui non sfrutta nessuno.
Questo proprio non è possibile.
Cet adage de la marquise, il est toujours d'actualité pour vous, Alice Rohrwacher. Les êtres humains sont des bêtes. Moi, je les exploite et eux, ils exploitent ce pauvre homme. Est-ce qu'on vit encore pour vous dans un monde où tout le monde exploite tout le monde ?
Beh, sì, tante come anche oui. Racconta il film, tutto comme cambia,
le film
e tutto resta
le montre, tout change et tout reste toujours pareil. C'est un peu un passage entre le premier du Moyen-Âge et un deuxième Moyen-Âge. On part d'un Moyen-Âge social et on arrive au Moyen-Âge de l'âme. Le film raconte l'histoire d'un groupe de personnes qui sont toujours exclues des luttes. Elles sont exclues de la lutte des classes dans la première partie. Et ensuite, ces personnes sont exclues dans cette lutte pour affirmer l'individu dans la deuxième partie du film. Ils sont des exclus dans l'histoire, dans l'absolu. Et donc, dans leur vie de tous les jours, ils continuent, ils poursuivent cette exclusion, et cela a un caractère aussi drôle dans les films. Et c'est là leur place, c'est-à-dire que moi je voulais raconter comment ces personnes n'arrivent jamais à rentrer dans une lutte.
Des années après, donc, ces paysans vont suivre les voies de l'exode rural, ils vont être libres, mais ils vont aussi vivre à la marge des villes dans une forme d'esclavage moderne. Et il y a cette scène du film qui ouvre la deuxième partie qui est très révélatrice, cette scène de mise aux enchères du travail, de la valeur du travail, avec un prix de départ qui est fixé et puis une relance à celui qui offre le moins, c'est-à-dire celui qui offrira le prix pour sa force de travail le plus bas qui va l'emporter. C'est des sortes d'enchères à l'envers et on entend l'homme qui guide ses enchères, le sort de commissaire-priseur, dire voilà, c'est comme ça qu'on trouve du boulot en acceptant de se vendre pour moins cher. Bientôt, on devra peut-être payer pour travailler, Alice Rohrwacher. Ce qui est étonnant en regardant votre film, c'est qu'on se scandalise tous de l'escroquerie de la marquise, ce qu'elle fait à ses hommes. Mais on se rend compte aussi qu'on arrive à vivre au quotidien sans s'indigner du sort de ceux qui vivent aujourd'hui à la marge de nos villes. On ne les voit pas.
Sì, per me era molto importante in questo momento in cui si parla tanto dell'altro, della migrazione, dello straniero.
Parle beaucoup de l'autre, della migrazione,
raccontare una migrazione
de l'étranger. Je voulais parler d'une migration domestique. En fait, dans ce film où nous avons des paysans qui appartiennent à un village et qui finalement se déplacent par l'histoire, les fait déplacer à droite, à gauche, vers la ville, et restent toujours au bord, aux marges. Et donc, c'est un peu la vie de l'autre. C'est-à-dire, c'est une vie que nous ne voulons pas voir au bord des trottoirs, au bord de chemin de fer et qui est toujours associé à l'autre. Donc, pour moi, raconter une migration domestique, nationale, italienne, était un moyen pour créer une image chez les spettateurs. Et ça, c'est la force du cinéma, c'est-à-dire de pouvoir faire une synthèse dans une image, d'un discours, et rendre les personnes comme protagoniste d'une migration, le fait de passer de l'intérieur à l'extérieur. Il n'y a pas de différence entre les différents types d'exploitation, c'est-à-dire cela peut être la montagne perdue dans l'Italie, la montagne perdue d'un autre pays. Mais il s'agit toujours du passage d'un groupe de personnes vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, moi, je voulais donner une image de tout ça.
Et de l'innocence à la servitude volontaire, vous êtes sur des thèmes très universels. Qu'est-ce qui, dans votre film, fait écho quand même à l'Italie d'aujourd'hui pour vous ?
Ma si parla sempre del presente, anche il passato.
On parle toujours
che noi
du présent.
Raccontiamo un passato immaginario.
Même lorsqu'on parle du passé, on parle d'un passé immaginaire.
In Italia è talmente
et
grottesco.
Ce qui se passe en Italie aujourd'hui est tellement grotesque.
Fare un racconto che assomiglia a una fiaba, no?
Essayer de raconter quelque chose qui en fait ressemble un peu à une fable. Moi j'utilise les moyens de la fable, la marquise est méchante, le jeune prince blond, le servant, ce sont des images qui
dove ci sono i buoni,
viennent du monde des fables,
forse
où il y a les bons
in qualche modo
et les méchants.
Raccontare et attraverso donc, questa, attraverso queste armi
le
della fiaba poteva permettere poi di ritornare
moyens de la fable m'ont permis de revenir vers la réalité avec des symboles et donc avec une analyse plus grande.
Purtroppo credo che ci sia tanto del presente.
Malheureusement, il y a beaucoup du présent.
La fine del film che non voglio raccontarla.
Et la fin du film che je ne veux
pas
raconter parce que
gli spettatori la vedono, però
j'espère que les spettateurs
cronaca di tutti i giorni,
ceux qui nous écouteront le voir ce film, mais disons que le soupçon de l'innocence est quelque chose de tous les jours, un peu comme la mise en chaire à l'envers, qui paraît si grotesque, c'est quelque chose de tout à fait réel. L'exploitation des ouvriers agricoles, je crois qu'il est bien pire aujourd'hui.
Le prénom de Lazzaro est une référence à Lazare, l'homme ressuscité par Jésus. Et on retrouve aussi dans votre film, Alice Rovacher, la parabole du loup, qui rapproche cette fois Lazzaro de François le Saint, qui avait apprivoisé un loup sauvage et féroce, qu'il avait presque converti en agneau. Évocation de Saint François d'Assise, mais pas Rossellini cette fois. Il présentait alors son film « Les Onze Fioretti ».
Le film de ce soir, c'est Les Fioretti de Saint-François. Et c'est justement le film de l'innocence. Et de l'innocence comme moyen de lutte, au lieu, non? C'est cette innocence que j'avais quand même découvert déjà en Paisa, dans l'épisode que j'avais tourné dans le couvent des moines franciscains. C'est encore l'innocence pleine de foi, si vous voulez, du miracle. Et c'est sur ce thème de la force, de l'énorme force de l'innocence que j'ai voulu reprendre avec les Fioretti de Saint-François. Et alors, c'est aussi en même temps une tentative de faire un film historique avec des éléments profondément réels, c'est-à-dire de reconstituer ce que probablement ou sûrement était la vie alors. Et c'est dans cet esprit que ce film il a été fait. Ce film même il n'a pas été un succès. Il a été reçu très bien par des gens qui aimaient le cinéma. Et il a été pas compris, il faut dire, par la grande masse du public.
Rossellini évoquant les 11 Fioretti de François d'Assise.
Ça fait pleurer, hein, l'écouter, vraiment.
Alice Rohrwacher, son retour à la vie, celui de Lazzaro des années plus tard, relève clairement du miracle. On est, et vous l'évoquiez, entre la fable, le conte de fées, ça fait penser au réveil de la Belle au bois dormant, les ronces aussi qui ont pu envahir le palais, la maison de la marquise, entre le conte de fées et le Nouveau Testament. Il n'y a que la Bible ou le cinéma qui permettent ça, de faire renaître des personnages, cette résurrection.
Ah, on ne sait jamais, hein. Les miracles, ça peut exister quand même. Sì, diciamo che il film ha... forse non ho capito bene la domanda, però se ha dei riferimenti anche religiosi.
Sì, cioè se tra soltanto la Bibbia e il cinema ci permettono di...
Sicuramente... è un sogno quello di viaggiare
en
nel
fait,
tempo.
C'est un rêve, celui de pouvoir voyager dans le temps.
Quando facciamo un film,
et donc, lorsqu'on tourne un film, lorsque j'ai commencé à écrire ce film, je me suis demandé mais pourquoi ne pas faire un vrai voyage dans le temps?
E forse è solo il viaggio nel tempo,
en fait,
come nei film
peut-être c'est seulement le voyage dans le temps.
Di ritornare
qui
al
nous
presente
permette de revenir
et di vederlo
dans le présent
dalla luna, di vederlo
et de pouvoir voir le présent
epoca,
comme depuis
comme
la lune, et c'est-à-dire de le voir comme une époque et non pas comme
et
une actualité, parce que finalement des morceaux de l'actualité ne permettent pas de voir la réalité, le présent. Alors que je pense que si nous revenions d'un voyage, on pourrait le voir comme une époque et non pas seulement comme tout un ensemble de petits morceaux d'informations d'actualité.
Et d'ailleurs, vous filmez, vu d'en haut, des paysages sublimes de cette campagne italienne, extrêmement poétique, un cinéma presque naturaliste sur ce que le cinéma autorise, permet. Écoutez ce que nous en disait le cinéaste Olivier Assayas à la grande table. Pour lui, il avait cette impression, ce sentiment qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui méprise à la fois la spiritualité et à la fois l'intellectualisme. Il disait aussi que le cinéma filme d'abord le mystère du monde.
Je crois que tout cinéma filme de l'invisible, parce que la façon dont on regarde quelques films que ce soit, elle est subjective. Donc au fond, on transforme, ce que je veux dire par là, c'est tout simplement qu'on transforme ce qu'on voit en termes qui nous touchent ou qui ne nous touchent pas, auxquels on trouve en soi un écho ou pas, mais... L'humain, c'est une machine à transformer, à s'approprier subjectivement ce qui nous entoure. Et de ce point de vue-là, tout film parle de l'invisible. Le cinéma, tout ce qu'il y a de meilleur dans le cinéma et que j'essaie, dans lequel j'essaie, auquel j'essaye de trouver un écho dans le mien, ça a à voir avec l'invisible. Le cinéma, il filme le monde, mais il filme le monde y compris avec son mystère.
Vous êtes d'accord avec lui, Alice Ravacheur, le cinéma filme l'invisible, cette part d'invisible et de mystère du monde.
Però parla della parte visibile che è nell'invisibile.
Il parle de la partie visible qui se situe dans l'invisible.
Diciamo è come c'è diciamo una sonda.
Donc, c'est une sorte de sonde de l'existence, c'est comme vouloir distiller l'existant
et
le transformer dans des choses.
Pourquoi vous faites du cinéma, vous ?
Forse ci sono sempre tanti motivi, è difficile riassumere.
Toujours beaucoup de raisons, donc c'est difficile de résumer dans une seule raison, mais peut-être c'est parce qu'il y a une réconciliation dans le cinéma. Alors que dans la vie, l'expérience est toujours basée sur une séparation, et alors que le cinéma est comme une maison où tout se réunit, les choses se réunissent dans les images, dans les sentiments. Et donc, j'aime beaucoup de travailler sur des sentiments qui sont très opposés, comme l'ironie et le tragique, la poésie et le grotesque.
Riuscire à mettre, à passer dentro une image.
Transmettre dans une image toute la complexité de ces émotions qui sont si contrastantes, comme la perte et l'amour, la séparation, se retrouver. Et donc, le cinéma est vraiment une possibilité d'union, alors que le monde va toujours de plus en plus vers la séparation et la guerre.
Che dentro ci sia tanto di questo, insomma.
Donc je pense que dans mon cinéma il y a beaucoup de tout cela.
Merci beaucoup à vous, Alice Rohrwacher, d'être passée autour de cette grande table. Votre film Heureux Merci comme Lazaro sort en salle mercredi. C'est l'histoire d'une résurrection, mais c'est aussi l'affaire d'une révélation, celle de votre acteur Adriano Tardiolo, fantastique en Lazaro. On y retrouve aussi à l'écran votre sœur Alba Rohrwacher et Sergi Lopez, qu'on a plaisir à retrouver ici. Merci à vous.
Merci, au revoir.